La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Angers et nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Au programme de la Covidienne, rencontre avec Noan et David Lair, membres du collectif Contre-Attaque, la culture Contre-Attaque, qui nous parlent de leur projet C'était la culture. Nous écouterons ensuite la revue de presse féministe de Clémence après une pause musicale comme tous les jeudis. On écoute en premier Noan et David Lair, installez-vous confortablement, c'est parti pour la Covidienne. Est-ce que tu peux juste déjà te présenter et ce que tu fais, ton travail d'artiste ?
Oui, bonjour. Donc moi, je suis David Lair, je suis photographe. Je travaille beaucoup sur l'humain, en fait. Je fais beaucoup de portraits ou des choses comme ça. Après, je travaille beaucoup... c'est ça, mon portrait. Le portrait, c'est vraiment ce qui me caractérise.
Est-ce que tu peux déjà te présenter toi et ton travail d'artiste ?
Moi je m'appelle Noan, je suis comédienne, réalisatrice, scénariste, je suis aussi coach acteur spécialisé dans l'acting enfant, donc je coach des enfants sur des tournages. Quoi d'autre, je fais partie de deux compagnies en juin, une compagnie de théâtre de rue qui s'appelle la compagnie Gueule de Loup et ma propre compagnie qui s'appelle la compagnie Oscar et Molière, où là on mélange les arts.
Le collectif La Culture Contre-Attaque a été créé en 2015 au moment des attentats du 13 novembre. Est-ce que c'est toi qui as fondé ce collectif ? Est-ce que tu étais cofondatrice ?
Tout à fait. En fait, j'ai monté ce collectif avec Tariq Ben Salah, qui est un réalisateur angevin. Ce qui s'est passé, c'est qu'on devait se rencontrer parce qu'on voulait parler de projet de réalisation. Et puis, le jour où on s'est donné rendez-vous, ça faisait un moment qu'on avait prévu ce rendez-vous, donc on ne savait pas qu'entre-temps, il y aurait un attentat. Et donc, forcément, quand on s'est vu, on a surtout parlé de ce drame pour lequel on a été vraiment très très bouleversé comme une grosse partie de la France, et en fait ça nous a révolté. Moi, ce qui m'a beaucoup révolté, c'est que j'avais peur en fait qu'on rentre dans une France qui n'allait plus savoir réfléchir en fait et qui allait faire des amalgames, et j'ai eu envie de crier non à la terreur et de dire oui à la liberté, oui à la diversité, oui au vivre ensemble. Et Tariq aussi. Donc on s'est dit, il faudrait qu'on crée un lieu où les gens peuvent se retrouver pour parler librement via l'art et pour dire non, on n'est pas d'accord avec les amalgames, oui à la liberté, non à la terreur, oui à l'art et au partage et aux rencontres et aux diversités. Et du coup, on a décidé de monter ce collectif, on a dit il faudrait qu'on contre-attaque, et du coup on a dit le collectif La Culture Contre-Attaque, en fait. Voilà, c'est comme ça que ça s'est monté. Ça a été notre manière à nous de dire, d'essayer de réagir à notre manière, quoi, parce qu'on pouvait rien faire, en fait. Donc, on était comme tout le monde impuissant. Et en montant ce collectif, on a pu exprimer notre désaccord par rapport à ces attentats, quoi.
Et aujourd'hui, tu lances un projet, t'as lancé un projet avec David Lair, dont on va parler juste après. Mais avant de parler spécifiquement de ce projet, pourquoi maintenant ? Quels sont les enjeux pour la culture aujourd'hui ?
Les enjeux pour la culture, elles sont simples. Aujourd'hui, on est tous privés de liberté, ça c'est clair. Le corona nous enferme. Il nous enferme tous dans un quotidien qu'on n'a pas choisi. Il nous enferme tous dans un cercle restreint. Tout devient compliqué. C'est plus aussi simple d'aller voir ses amis, d'aller voir sa famille, d'aller voir les personnes un peu plus âgées. Tout devient complexe, tout devient très compliqué. Et nous, les artistes, on nous a enfermés dans cette espèce d'interdiction de s'exprimer, de jouer. Sauf que nous, s'exprimer, c'est ce qui nous fait vivre, en fait. Et ça nous fait pas seulement vivre parce que ça nous rapporte de l'argent et ça nous fait manger nos pâtes. C'est surtout que c'est très compliqué à expliquer, je trouve, quand on n'est pas dans le métier. Mais nous, le métier passion qui fait que c'est vital. Ça fait partie de nous, en fait. C'est important pour nous de s'exprimer. C'est notre manière de dire les choses, d'exister, de vivre libre, et d'un coup on nous empêche en fait. Et moi, ce qui a été très très dur, ce qui a vraiment déclenché, parce que j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire que il y a eu cette histoire de corona, on nous a dit il faut faire le confinement, faut faire ci, faut faire ça. On a suivi tout à la règle parce qu'on avait qu'une seule envie, c'était que ça s'arrête, comme tout le monde. Donc on a tous suivi la règle. Et puis il y a un truc que j'ai pas compris, moi le 28 octobre, je jouais dans un petit théâtre. J'avais devant moi une salle qui était à moitié remplie parce que on nous avait demandé d'avoir qu'une jauge réduite. Les gens étaient masqués, on a joué, mais ils sont venus, les gens. Et les gens de ce théâtre, ils se sont battus pour qu'on joue ce spectacle. Et j'ai regardé tout ce public. Et j'avais les boules parce que je savais que le soir, le Premier ministre allait parler. Et je savais pas si c'était la dernière fois que j'allais jouer. Et c'est la dernière fois que j'ai joué. J'ai pas compris pourquoi on fermait les lieux culturels. On est en train de nous dire que ce qui est essentiel à la vie, c'est de travailler et de manger. Or, nous, si on travaille pas, on peut pas manger déjà. Et surtout, c'est faux. La culture est essentielle. Elle permet de s'évader, ou de respirer, de faire un break, de sortir d'un quotidien qui est métro, boulot, dodo, quoi.
À titre personnel, justement, que ce soit pour toi ou les personnes du milieu culturel que tu côtoies, quelles sont les conséquences de cette année de mise à l'écart ?
Moi, du coup, j'ai pas exposé. Alors, moi, ma chance, c'est que j'ai un travail à côté. Moi, je fais autre chose à côté, donc j'ai pu survivre grâce à ça. Mais je sais que la plupart des connaissances que j'ai, artistes, eux, qui n'ont rien d'autre à côté, ils sont vraiment, vraiment dans la mouise, quoi. Et du coup, voilà, donc c'était, pour moi, c'était essentiel, de pouvoir faire ce projet et d'apporter mon soutien au monde artistique.
Bon, c'est hyper dur. D'abord, c'est hyper dur parce que il y a deux choses qui sont difficiles. Alors, bien sûr, il y a la chose qui va sauter aux yeux de tout le monde, c'est-à-dire, on n'a pas pu travailler, faire le nombre de cachets suffisants pour avoir notre statut d'intermittent du spectacle et pour pouvoir vivre, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, et je crois que c'est celle qui est pour moi le plus dangereux, et je crois que c'est en partie pour ça que j'ai lancé ce projet, c'était la culture, c'est que on s'est retrouvé aussi à être coupé de quelque chose qui de notre air à nous. C'est pas le corona qui nous empêche de respirer. Si c'est le corona, mais c'est plutôt les mesures sanitaires autour du corona qui nous empêchent de respirer, en fait. Parce que nous, l'art, c'est ce qui nous fait vivre vraiment, mais vivre de c'est ce qui fait qu'on se réveille le matin et qu'on a envie de passer une journée de folie. Enfin, voilà, c'est ce qui nous fait nous lever le matin. Moi, c'est assez simple. À partir du moment où on nous a arrêtés, c'est comme si d'un coup, mon imagination, comme moi j'étais bloquée de mes libertés, je pouvais plus circuler comme je voulais, je pouvais plus respirer comme je voulais parce que je devais porter un masque, et d'un coup, je ne pouvais plus m'exprimer. Je pouvais plus exprimer non plus cette frustration par l'art. Et nous, on l'exprime pour pouvoir partager. On a besoin de ça, du retour du public. Donc, super, c'était super de voir tous les gens qui faisaient de la danse dans leur salon, des concerts, tout ça, super. Mais demande à un artiste, n'importe lequel, ok, maintenant tu as le choix entre remonter sur scène avec ton public ou continuer à jouer dans ton salon devant ta webcam. Il n'y a pas photo. Même si tu lui dis t'es pas payé, le mec il choisit clairement d'aller jouer pour son public. On a besoin de ça.
On va revenir sur le projet que tu fais avec David Lair. Il s'appelle C'était la culture. Comment est-ce qu'il a débuté? Comment tu t'es retrouvé avec David? Et qu'est-ce que vous vouliez faire initialement?
En fait, ça a été très simple. Donc il y a eu cette histoire de non-essentiel, cette étiquette-là. À partir du moment où on a eu ce truc de non-essentiel, moi j'ai eu et que j'ai vu qu'il se passait rien du tout pour la culture, je me suis dit c'est pas possible, il faut qu'on réagisse parce qu'on est en train de crever. Et donc David Lair, je l'avais rencontré via le collectif La Culture Contre-Attaque, sur le projet du clip, parce que lui il est venu en tant que photographe pour faire des photos des backstage un peu. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé son travail. D'ailleurs, ce collectif a aussi permis beaucoup de rencontres. Après, David a été aussi pas mal sur des plateaux de tournage. C'est aussi ça. C'est aussi ça l'art, c'est aussi ça le collectif, c'est pouvoir faire des rencontres. Il y a des gens qui se rencontrent, il y a des artistes qui communiquent, qui créent ensemble, et ça c'est une force. Et du coup, j'ai parlé à David de cette idée de, en fait, on est tous en train de crever tout seul, quoi. Et je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien faire un projet un peu, un projet d'alerte, voilà, c'est ça. Je lui ai dit, je voudrais faire un projet d'alerte pour montrer qu'il faut qu'on s'occupe de nous parce que là, on va périr. Et donc, je lui ai parlé de mon idée de mettre en scène des acteurs du milieu culturel dans une situation de danger, voire de limite mort. Donc, c'était travailler sur la symbolique avec un représentant pour chaque domaine. Et du coup, on a beaucoup discuté ensemble pour savoir comment on mettrait en scène et qui on mettrait en scène, etc. Donc moi, j'ai contacté différents lieux. J'avais envie que les lieux soient très symboliques. Tout est très symbolique. On a pour chaque représentant, donc on a une musicienne, on a une réalisatrice, on a un acrobate, on a un artiste plasticien, on a un acteur, on a une projectionniste. Ça, c'est aussi parce qu'on voulait montrer qu'il y avait les lieux aussi qui mouraient. Donc, on voulait montrer le lieu du cinéma. Une artiste de rue et on a une danseuse. Donc, on a 8 portraits qui vont mettre en scène à chaque fois. Donc, un acteur dans un lieu symbolique. Donc, par exemple, on a donc un comédien dans un théâtre, on a une musicienne dans une salle de spectacle qui est le Shabada, on a une réalisatrice sur un plateau de tournage, on a un acrobate dans un chapiteau. À chaque fois, c'est le lieu qui représente son art. Et la photo est toujours, le personnage est toujours seul pour montrer qu'on est vraiment seul, qu'on est vraiment perdu, et surtout que l'artiste n'existe plus sans son public, il meurt sans son public. La photo est souvent en plongée. C'est pour montrer le côté écrasant de la situation. Et à chaque fois, chaque personnage est dans un... Chaque personnage est mis en... comme mort, mis en scène. Donc on a... Alors, clairement, il y a par exemple le personnage de Victoria Jehan, qui est musicienne. Elle est carrément allongée dans sa boîte de violoncelle. Sa boîte de violoncelle représente un peu le cercueil. Donc là, on est clairement sur la mort. Il y a le pupitre qui est derrière elle. Derrière ce pupitre, il y a le violoncelle. Dans une cérémonie funéraire où il y a les proches qui font un discours devant le cercueil. Donc là, c'est le violoncelle qui, devant les partitions, passe au musicien, enfin à la musicienne, allongée, morte. Dans son cercueil, sur la scène du Shabada, avec les rideaux qui se ferment pour dire, bah voilà, rideau.
Oui, on voit que pour chaque domaine, c'est une mort bien symbolique et spécifique aussi à l'art auquel elle touche. Vous avez aussi pensé aux salles de cinéma sur la dernière photographie.
Où est-ce qu'on est et qu'est-ce qui s'y passe là maintenant?
Donc là, on est devant le cinéma des 400 coups, en fait, où on a mis les photos, enfin les affiches en place mardi soir. Et donc il y a les 8 portraits qui sont affichés sur les murs du 400 coups, du cinéma du 400 coups.
Et qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre ce projet? Pourquoi est-ce que c'était important pour toi?
Alors moi, en fait, en tant que photographe, moi, le côté non essentiel de la culture, ça m'a un petit peu énervé. Pas exactement comment faire pour pouvoir participer à la lutte. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est quand Noël est venu me proposer ce projet, bah, j'ai dit oui, ok, on y va. Voilà, c'était un peu ma manière à moi de dénoncer ce terme de non-essentiel.
Sur ce projet, on a eu quand même vraiment de beaux soutiens, des gens vraiment qui nous ont vraiment soutenus. Il y a notamment le cinéma des 400 coups, hein, qui nous a d'abord autorisé avec Élise Rosier, qui est sur cette photo de projectionniste, qui est projectionniste aux 400 coups. Donc eux, ils nous ont soutenus tout de suite et ils avaient envie de continuer à soutenir le projet. Et donc voilà, nous, notre but, c'était de faire de ces photos une expo urbaine. On s'est dit, les lieux sont fermés, mais les gens ont besoin d'art, et nous, on a besoin d'exprimer ce qui se passe pour nous. On a besoin que les gens sachent. Donc, on va amener l'art aux gens, puisque les gens ne peuvent plus rentrer dans les lieux faits pour la culture. Et donc, notre idée, c'était de faire des posters, comme des posters de cinéma, d'exposer ça à la place des affiches de cinéma, voilà, de ces encarts vides, puisque on ne peut plus aller au cinéma, utiliser ces encarts vides pour faire passer un message. Et voilà, donc on a demander à Claude-Éric Poirot et à Isabelle, la directrice des 400 coups, et qui nous ont donné le feu vert. Donc merci énormément à eux, ça c'est voilà, ça c'est très important. Et puis dans les gens qui nous ont soutenus aussi, il y a Doris Coffey de Art Project Partner, dont vous avez certainement entendu parler ces derniers temps avec la résidence, super projet, qui nous a soutenus dès le départ, a trouvé le projet super et nous a dit bingo, moi je vous imprime gratuitement. Je vous imprime gratuitement 5 séries de votre expo pour que vous puissiez l'exposer au maximum.
Là, du coup, on est devant les huit affiches. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du projet, et de ces affiches, de ce qu'on y voit et de ce que vous vouliez montrer ?
Oui, alors donc du coup là, sur les affiches, donc il y a 8 portraits. On a essayé de montrer un petit peu les différents classes d'artistes en fait qui sont en danger actuellement avec la crise du Covid et le fait de les placer en non essentiel. Donc ça passe du cinéma à la danseuse en passant par les arts du cirque, l'art de la rue, etc. Donc on a essayé de représenter tous les arts possibles avec ces affiches. Et donc les affiches en fait elles ont plutôt un côté passéiste en fait, c'est-à-dire que voilà, si on ne fait pas attention, on va perdre la culture. Et donc il y en a certaines qui sont comme oubliées, la danseuse par exemple avec l'étoile d'araignée, donc voilà, on l'a oubliée, ou alors quelques-uns où ils sont vraiment presque assassinés en fait par la situation actuelle. Donc c'est le cas avec la réalisatrice qui est un des portraits affiché ici.
J'ai vu il n'y a pas longtemps à Bordeaux, il y a une campagne pour faire des sondages dans la ville, et il y a une campagne où sur une grande affiche écrit partout, il y a cette question, est-ce que être artiste est un métier ? Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. En tout cas, il y a cette question, cette affiche faite par la mairie, est-ce que être artiste est un métier ? Et les citoyens et citoyennes sont invités à aller donner leur avis. Et donc ça a fait un peu de bruit, et les artistes ont évidemment pas bien pris la chose. Donc pourquoi c'est aussi important de mettre ces affiches là qui soutiennent la culture et les artistes au milieu de la ville?
Parce que c'est vraiment un métier, hein. Artiste, c'est vraiment un métier, c'est un métier de passion, donc ça on est d'accord. Par contre, c'est vraiment un métier, il faut qu'on s'y consacre énormément de temps, enfin les danseuses répètent constamment, les comédiens sont en train de répéter continuellement leur jeu, les musiciens c'est pareil, ils doivent s'entraîner pour pouvoir montrer leur art. Et donc là par exemple Noëlle qui est artiste de rue, voilà, son corps de métier c'est d'être au contact des gens en pleine rue, et donc du coup c'est pour ça qu'on a voulu faire cette exposition en pleine rue, pour que les gens puissent en profiter. Voilà, et dire que voilà, même si on n'est pas là, la culture est présente et elle restera présente.
Et donc là cette exposition devant les 400 coups, elle est là pour combien de temps?
Donc là, elle est là pendant une semaine, donc elle est là jusqu'au 12.
Et on pourra voir les affiches ailleurs, c'est prévu ?
Oui, alors les affiches, de toute façon, elles tournent beaucoup sur les réseaux sociaux pour le moment. On a aussi prévu de les installer à Ancenis, au théâtre d'Ancenis. Elles seront aussi installées à La Flèche, au Carrois. Donc ça, donc le Carrois, c'est un des lieux qui nous a autorisé à venir faire des photos sur le site et profiter de leur lieu. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le moment, on a ces deux lieux-là qui sont prévus pour le moment.
Et il me semble qu'on peut aussi nous-mêmes ou les commerçants ou qui veut en imprimer et en afficher.
Oui, exactement. Donc j'ai mis toutes ces affiches-là, hein, elles sont libres. Voilà, j'ai mis un lien à disposition. Et donc toutes les personnes qui veulent en afficher une ou quoi, il y a possibilité de les télécharger. Alors si il faut me demander, moi j'envoie le lien, il n'y a pas de problème.
Là par rapport aux dernières annonces sur la culture, tu le vois comment toi? Est-ce que tu vois ça comme enfin ça reprend, ou toujours une réticence, un peu peur, c'est flou?
Alors moi j'ai une grosse réticence, alors heureusement tant mieux, ça rouvre. Par contre il ne faut pas oublier que la dernière fois, donc les cinémas ils ont ouvert 3 semaines pour refermer très peu de temps après. Donc voilà. Et donc moi non, je pense qu'il ne faut pas non plus, c'est pas parce que les lieux de culture vont rouvrir que les artistes vont pouvoir reprendre comme ça. Donc voilà, donc leur situation elle n'est pas, la situation des artistes elle est encore compliquée. Et je pense qu'encore pour un certain temps, parce qu'il y a plein de festivals cet été par exemple qui sont annulés. Donc tous les artistes qui participent participent à ces festivals, bah, ils ont pas de boulot, quoi. Et donc du coup voilà, donc cet affichage en fait, il peut continuer, il peut être pérenne pour justement dire que voilà, la culture elle est essentielle et qu'il faut pas oublier les artistes et les lieux de culture.
Est-ce qu'on peut suivre le collectif La Culture Contre-Attaque quelque part sur internet, avoir des nouvelles? Et est-ce qu'on peut le rejoindre aussi? Comment ça marche?
Oui, alors le collectif, en fait, il y a une page Facebook spécifique pour le collectif, donc vous pouvez y aller, hein, c'est Facebook, le collectif La Culture Contre-Attaque. Après, vous pouvez adhérer à la page, enfin aimer la page, voilà. Après, les personnes qui veulent, il n'y a pas vraiment d'adhésion payante, c'est, voilà, c'est les personnes qui veulent participer à un acte culturel ou des choses comme ça, peuvent contacter le collectif et puis voir s'il peut se mettre des choses en place. En fait, le collectif, ça permet surtout de faire des collaborations et de mettre en lien des artistes de la région.
Bah, merci beaucoup, David. Et puis, on invite tous les Angevins, les Angevines et les personnes des alentours à venir devant le cinéma des 400 coups dans le centre-ville pour voir les affiches ou aller voir sur votre page Facebook. Je suppose qu'il y a les liens.
Oui, très bien. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter là maintenant?
Moi, je voudrais lancer un message à tous les artistes du monde entier. On est tous ensemble et il faut qu'on continue à se battre. Et à tous les spectateurs, on fait aussi vous, si vous nous manquez, on va bientôt se retrouver, c'est promis. Mais pour ça, il faut qu'on continue à serrer les coudes. La solidarité, c'est hyper important. Donc, on va bientôt pouvoir enfin s'évader ensemble et rêver. Et n'abandonnez pas, soyez forts, n'abandonnez pas. On va y arriver. Et puis à tout le monde, n'hésitez pas, venez sur la page du collectif, likez et proposez des projets. On est vraiment, allez-y, faites-vous plaisir. On est là pour ça, parce que plaisir, ça existe encore.
Ladies and gentlemen, welcome to France. It is our pleasure to play for you. Have a nice holiday. Allons, allons, les amis, en avant.
Tu fais semblant.
Vous êtes toujours dans la Covidienne sur Radio Campus Angers et on vient d'écouter Tu fais semblant de Deggy Huggy. Clémence est avec nous, c'est l'heure de la revue de presse féministe. Ce soir, elle a feuilleté pour vous les 150 pages de la revue indépendante La Déferlante. Salut Clémence, comment tu vas ?
Ça va bien, comme tu viens de le dire, bah j'ai fait un peu de lecture. Donc le premier numéro de la revue féministe La Déferlante. Elle a été cofondée par Marie Barbier, Lucie Geoffroy, Emmanuel Jauss et Marie Pilas et ça compile 150 pages de chroniques, BD, articles plus ou moins longs, ainsi qu'un dossier de 30 pages sur la place du genre à la naissance. On va attaquer par ce gros morceau. Dedans, le témoignage de deux sages-femmes sur la place énorme que prend le genre d'un futur bébé. Entre l'excitation et le besoin de connaître le sexe de l'enfant dès la deuxième échographie pour tapisser la chambre dans les bons tons, et l'organisation d'une gender reveal party avec le gâteau flunch traiteur rose ou bleu à l'intérieur. Dedans aussi le témoignage de la réalisatrice et militante noire, Amandine Gay, adoptée sous X par des parents blancs. Il y a aussi un entretien avec l'association Intersexes et Alliés pour la défense des droits des personnes intersexes. Ils et elles demandent la cessation des traitements lourds imposés à ces personnes dès leur plus jeune âge pour entrer dans le moule de la binarité. La naissance s'aborde aussi autrement qu'avec un utérus. Elle peut être sociale. L'histoire de la citation « On ne naît pas femme, on le devient » écrite par Simone de Beauvoir est analysée par la normalienne agrégée et docteur en philo Manon Garcia. Ça peut aussi être une renaissance lorsqu'on tourne les pages du récit d'Adèle entre joie et peine dans son parcours de transition de genre. On y passe de l'euphorie de trouver des personnes qui lui ressemblent avant de se prendre une sacrée claque à l'annonce de la mort des femmes trans qui l'ont soutenue dans son chemin. Thibault m'a quant à lui recommandé la lecture du portrait de Françoise Daubonne. Née en 1920, elle lance la grève des ventres, une tribune publiée dans Charlie Hebdo en 1974. Déjà, elle sonne l'alarme sur la surpopulation humaine. Et oui, c'est à elle qu'on doit le terme d'écoféminisme. Françoise Daubonne, c'est une vie d'écriture et beaucoup de militantisme. Anticolonialiste pendant la guerre d'Algérie, on la retrouve sur les barricades en mai 68. Elle participe aussi à la fondation du MLF en 70 et du Front homosexuel révolutionnaire en 71. En mai 75, elle participe aussi à l'attentat à la bombe contre la construction de la centrale nucléaire de Fessenheim. Elle ne sera pas inquiétée par la suite. Françoise n'a pas eu accès à la contraception, ce qui ne l'a pas empêché de questionner l'instinct maternel. Pour elle, je cite, « Il est mystifié, déformé et manipulé. Je crois qu'il existe au départ, mais que la société mâle en fait un moyen d'oppression et d'aliénation qui ravale la femme au rang de femelle pondeuse, seule fonction devant toutes ses aspirations et ambitions. » Ses trois enfants, elle ne les a pas désirés, ni éduqués, elle les a placés en nourrice. Pourtant, elle les a aimés et a assuré tous les frais relatifs à leur éducation pour pouvoir de son côté vivre sa vie de femme indépendante, une vie de mère indifférente. L'autrice, Élise Thiébaud, dépoussière le parcours de cette militante radicale qui a su questionner l'hétérosexualité, la maternité et l'écologie avant l'heure. Pour finir, un article qui reconduit direct en enfance devant MC Skid, Tefou et Midi les Zouzous. Une enquête de la sociologue des médias Mélanie Lallet analyse les héroïnes des dessins animés sur 50 années, même si on se focalise pas mal sur le boom du girl power des années 2000. Par exemple, les Totally Spies et Atomic Betty, qui mettent en avant uniquement des personnages féminins, non sans parfois une pointe de dérision sur les stéréotypes de genre. Tout n'est pourtant pas en constante amélioration. Un changement d'équipe de production peut mener au retour des clichés. Dans Choupi, le personnage de la Lou est blanchisé entre les versions 1999 et 2008. Pareil avec Spy Z, la suite directe des Totally Spies, où on retrouve quatre jeunes agents secrets. Il n'y a qu'une seule fille parmi eux, toutes de rose vêtues, et qui se prend les remarques sexistes des trois autres en permanence. Ça finit tout de même sur une note positive, avec une liste de films qui questionnent les stéréotypes de genre que je vous laisse découvrir en vous procurant le magazine. On prend du plaisir et du temps à dévorer La Déferlante. Autant de contenu pour 20 euros, ça les vaut bien. Vous y retrouverez aussi des papiers sur le sexisme à la française, sur quoi faire des violeurs et 16 pages de BD sur la mobilisation féminine contre la construction d'une centrale nucléaire en Bretagne. C'est disponible à la commande dans les librairies et aussi par internet sur le site Revue La Déferlante.
Merci beaucoup Clémence et merci à Thibaut pour la technique. C'est déjà la fin de cette Covidienne. On se retrouve lundi et d'ici là, bon week-end sur les ondes de Radio Campus Angers.